baiser. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer,
comme un naufragé sur sur son nid. Comme le funambule sur un fil.
Seul parce qu'on a tout pris, parce qu'on a eu tort, c'est se croire en vie, même quand on est mort. C'est abandonner sa chance à un autre, sans jamais pouvoir oublier sa faute. Seul parce que l'amour a changé de corps, c'est des cris de peine, mais qu'il est
parce qu'on n'a pas su lire entre les lignes, qu'on n'a pas voulu regarder les signes, parce qu'on écoutait sans jamais le croire. Quand l'amour s'en va, c'est toujours trop tard. Seul c'est une nuit qui n'en finit pas. C'est une aile sans lui, c'est un toit sans moi. Parce qu'on est libre,
seul comme une histoire sans son livre.
Seul parce qu'on a tout pris, parce qu'on a eu tort, c'est se croire en vie, même quand on est mort. C'est abandonner sa chance à un autre, sans jamais pouvoir oublier sa faute. Seul parce que l'amour a changé de corps, c'est des cris de peine, mais qui les entend. Seul parce qu'on n'a pas su vivre entre les lignes.
Vous entendez sa voix? Oui, mon Dieu. Rebonjour tout le monde. Rebienvenue. Je vous trouve extrêmement discipliné. Je suis content. Merci beaucoup. Il est à peu près 11h pile, un peu plus. Et c'est l'heure, donc, du panel jeunesse. Et pour nous en parler un peu, vous savez, un des grands partenaires de l'événement, c'est la Ville de Montréal. Et je vous invite à écouter pendant quelques minutes la commissaire à la langue française de la Ville de Montréal, Noémie Danstreau-Lavoie.
Bonjour. Ah oui, ça porte bien, c'est bien.
Oui.
Alors, chers partenaires, chers collaborateurs, chers panélistes, c'est un grand, grand plaisir pour la Ville de Montréal que d'appuyer Mobilisation Franco, un événement, on l'a mentionné, rassembleur, dynamique et important, qui célèbre les forces vives de la francophonie canadienne et qui permet de créer de nouveaux liens au sein de ce grand réseau. Et nous l'avons mentionné pour la première fois, l'événement se tient à Montréal. Nous sommes très, très heureux de vous y accueillir. Et j'en profite pour féliciter, évidemment, et remercier les organisateurs, la Fédération des communautés francophones et acadiennes et le Centre de la francophonie des Amériques, avec qui, et je vois ici M. Robitaille, M. Lavoie, Aude, toute l'équipe, Liane Roy. Et c'est toujours, je l'ai mentionné, c'est toujours vraiment un immense plaisir de collaborer avec vous. Et au ministère de la langue française, qui permet la tenue de ces grands événements. Et comme vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler là, dernièrement, Montréal travaille activement afin de promouvoir et valoriser la langue française. Par le biais de différentes initiatives et projets, découlant notamment notre entente avec le gouvernement du Québec, mais aussi en cultivant et en nourrissant la réflexion collective à l'égard de la question linguistique. Dans ce contexte, notre participation à ce forum, s'avérait incontournable. Je vous le dis, pour nous, c'était, je ne dirais pas un anglicisme, mais c'était vraiment un incontournable. J'allais dire, c'était un must. Voilà, c'est une blague. Vous avez compris. Comme vous le savez, en matière de francophonie, la notion de réseau revêt une importance stratégique toute particulière. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns parmi vous, c'est absolument essentiel. Et plus que jamais, il importe de le consolider, de tisser des liens, des nouvelles passerelles, de cultiver la curiosité envers les différentes communautés et de partager nos expériences. Et ce, pour l'ensemble des secteurs, affaires, culture, éducation, communautaire. Mobilisation Franco, comme son nom l'indique, c'est exactement ça. Donc, à titre de métropole cosmopolite et inclusive, reconnue pour sa vitalité culturelle et économique, Montréal promeut une approche valorisant la diversité sous toutes ses formes, tout en célébrant le caractère rassembleur de la langue française, socle commun de son identité unique et vecteur de cohésion au sein de l'espace public. Et donc, Montréal, on le sait, c'est une plaque tournante, un carrefour de la francophonie, francophonie qui est vibrante, qui est plurielle. On a eu l'occasion hier avec M. Boucard-Diouf d'entendre toutes ces différentes couleurs, accents, c'est absolument extraordinaire. Et voilà, quand je m'éloigne un petit peu comme ça de mon texte, là, c'est plus difficile de revenir. Mais je voulais faire un clin d'œil à Boucard qui était absolument extraordinaire. Donc, je nous souhaite de pouvoir nourrir et consolider ce réseau. Et vos échos vont être extrêmement, extrêmement précieux. Puis là, je vous le dis ici, prochainement, la Ville de Montréal, on va retravailler notre prochain plan d'action en matière de francophonie. Ça, il prend fin là, en 2024. Et toute la réflexion, les échanges qu'on a aujourd'hui, toute l'idée de collaboration, c'est ça qui va nourrir aussi cette réflexion. Donc, on va accueillir avec intérêt les recommandations du comité qui est présidé par Mme Harel, que vous avez pu entendre un petit peu plus tôt ce matin, et sur lequel siège Mme Chang ici, qui est panéliste sur le panel ici qu'on va entendre présentement. Donc, ces échos-là, ce croisement, ce regard croisé de la francophonie, c'est extrêmement précieux pour nous. Donc, l'invitation est lancée pour la suite. On est en mode ouverture, en mode curiosité, et vous nous inspirez. Donc, on va écouter avec grand, grand intérêt vos recommandations, vos propositions. Alors, du fond du cœur, vraiment, un grand, grand merci. Puis moi, je vais être ici pour la journée, puis on va pouvoir échanger et accueillir les propositions et les échos. Alors, un grand merci, puis très bons échanges. Merci. Bon panel.
Merci beaucoup, beaucoup à Noémie Dansereau-Lavoie, commissaire à la langue française de la Ville de Montréal. Alors maintenant, c'est l'heure du deuxième panel de la journée. Et pour animer ce panel, il va nous présenter ses invités aussi. Je donne la parole à Simon Thériault, donc qui est président de la Fédération de la jeunesse canadienne française. À vous, Simon.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur La France. Merci, Madame Dansereau-Lavoie. J'aimerais remercier la Ville de Montréal d'être partenaire officiel de ce panel. Je suis très heureux d'être ici au nom de la FJCF. Donc, comme ça a été mentionné, moi, c'est Simon Thériault, président de la Fédération de la jeunesse canadienne française. On est la voix des jeunes d'expression française de 14 à 25 ans d'un bout à l'autre du pays. Et cette année, c'est une année très spéciale pour nous parce qu'on célèbre notre 50e anniversaire. Oui, les jeunes, on a 50 ans. Donc, à l'occasion de notre 50e anniversaire, on a préparé une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'on fait à la FJCF et ce qu'on a accompli dans nos 50 ans d'existence. On écoute ça. Merci. Et à la FJCF, évidemment, notre rôle, c'est aussi de permettre des occasions comme ceci, de mettre en valeur la jeunesse, de donner la voix à la jeunesse. Et j'ai l'immense privilège d'être ici avec quatre jeunes engagés dans nos communautés. Julie, Lindsay, Blanche, Aditya, bonjour.
Bonjour.
Donc, je vais vous laisser vous présenter. Je pense que vous êtes les mieux placés pour vous présenter. Donc, j'ai une première question pour vous. Qui vous êtes? Où habitez-vous? À quoi ressemble votre communauté francophone? Et dans quel organisme vous êtes impliqué? Tête Blanche d'abord?
OK, on commence. Moi, c'est Blanche Monabeka. Je suis membre du CA, du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Donc, j'habite en Colombie-Britannique. Je suis née à Montréal. Je viens d'origine congolaise. Mais j'ai grandi en CB. Vous allez m'entendre dire CB souvent. C'est Colombie-Britannique plus court. J'ai grandi en CB. J'ai fait toute ma scolarité en école francophone. C'est un peu ça mon parcours. Et c'est seulement récemment que je m'identifie comme francophone. Je crois qu'on va rentrer un peu plus dans un moment, mais je vais laisser mes collègues s'introduire.
Oui, je peux prendre le relais. Très contente d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Lindsay. Je suis membre du comité de valorisation sur la langue française à Montréal. Je suis également fondatrice de Galéa, qui est aujourd'hui la plus grande galerie d'art en ligne au Canada. Et nous œuvrons à rendre plus accessible la culture, les arts visuels dans le quotidien des gens. Donc, on parle de services d'exposition aux entreprises, services d'exposition aux OBNL, à rotation. Je suis aussi impliquée en tant que présidente du CA de l'OBNL Artea, qui est un OBNL œuvrant à soutenir les entrepreneurs créatifs et les artistes de groupes sous-représentés. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et quel beau sujet, le sujet de la langue française, qui touche à toutes ces questions d'identité. Mais on va en parler un peu plus après.
Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Julie Payette, je suis sur le conseil d'administration de Citoyenneté Jeunesse, qui est l'organisme par et pour les jeunes ici au Québec, et nous, on accueille les jeunes jusqu'à 35 ans. Moi, j'ai la chance d'habiter à Laval depuis 3 ans, Laval, ville hôtesse des Jeux de la francophonie canadienne 2025, là, comme vous avez vu dans le vidéo juste avant. Ça fait 3 ans que j'habite à Laval, puis avant, j'ai eu la chance, en fait, de découvrir beaucoup de communautés francophones en Colombie-Britannique, notamment, mais aussi en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Je suis arrivée au Canada, j'avais 17 ans et j'étais un peu seule. Fait que pour moi, mes communautés francophones, c'est aussi des communautés d'accueil. C'est là, en fait, que je me suis trouvée ma famille choisie ici. Fait que ça va être un grand plaisir là, de partager un peu plus là-dessus avec vous aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Aditya Vishweshwaran, je suis franco-albertain, né aux parents immigrants de l'Inde. J'ai appris le français en immersion française au Manitoba et en Alberta avant de passer aux études au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta où j'ai étudié en sciences politiques et en histoire. Maintenant, présentement, j'habite Gatineau. Est-ce que je deviens québécois? On va voir, on a entendu parler de l'évolution des identités, donc ça se peut que cette mobilité qui nous permet d'entreprendre d'autres identités aussi. Mais en ce moment, je suis un des 12 stagiaires du programme de stage parlementaire sur la colline parlementaire à Ottawa qui existe depuis 54 ans, puis nous permet de travailler dans des bureaux de députés dans un cadre non-partisan. C'est ça.
Parfait. Merci à vous quatre. Moi, je suis étudiant en sciences politiques à l'Université de Moncton. Donc, je suis originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, précisément de Grand-Sault. C'est ça. Je travaille également à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, l'organisme porte-parole des francophones au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis impliqué dans quelques organismes aussi là, dans ma francophonie au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'on peut se lancer dans le panel. Donc, la première question que j'ai pour vous, quel est votre engagement dans la communauté francophone aujourd'hui et qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes engagé aujourd'hui?
C'est une bonne question. J'y ai pensé pendant beaucoup de temps. J'ai porté plusieurs chapeaux au cours des années. J'ai été au CA de la CFA, qui est l'Association canadienne-française de l'Alberta. J'ai été engagé comme vice-président externe à l'Association des universitaires de la faculté Saint-Jean. J'ai fondé le balado Les Francos oubliés, que je vous invite à aller checker sur les médias sociaux, sur les plateformes numériques. Mais en ce moment, ce que je fais, c'est... Je suis... Je suis engagé avec les Jeunes Diplomates du Canada. C'est un organisme jeunesse qui envoie des délégations jeunesse à des forums politiques de haut niveau un peu partout dans le monde. Le G7, le G20, la Commission sur le statut de la femme, la Commission sur les enjeux autochtones des Nations Unies. Donc, en ce moment, on est en train de travailler à peut-être avoir une délégation internationale francophone. Donc, c'est à voir. À part de ça, je me concentre un peu ces jours-ci sur le savoir scientifique en français. Je pense que c'est un enjeu qui est très important. Le savoir ne devrait pas seulement se faire en anglais. Je travaille présentement sur il y a un volet académique du programme de stage parlementaire. Puis je me focus sur la culture anglo-normative de la Chambre des communes pour voir dans quelle façon, dans quel scénario est-ce qu'on utilise le français véritablement, puis est-ce que c'est vraiment une langue officielle à la Chambre des communes. Donc, ça s'en vient, on verra ce que je trouverai.
Oui, donc je vais enchaîner après ça. Ouf! j'ai dit un peu dans mon introduction que c'est récemment que j'identifie un peu plus comme francophone. Donc, bien sûr, j'ai grandi dans une école francophone ou dans des écoles francophones, mais c'est récemment parce que à cause de mon engagement francophone que j'ai vraiment pris en conscience de cette identité-là. Donc, c'est sûr, j'ai toujours été engagée dans ma communauté en général. Je fais partie de UNICEF Canada en tant que Youth Advocate. Donc, je fais du travail avec eux. Je fais du travail avec African Canadian Business Chamber à Vancouver, qui se répartit à travers le Canada en ce moment. Je fais ma maîtrise en counseling. Donc, tout mon monde a été très anglophone. Et puis, c'est à travers le Conseil jeunesse et à travers la FJCF que je me suis vraiment comme rentrée dans les affaires francophones. Je crois qu'en tant que jeune de parents immigrants, en tant que jeune dans un milieu minoritaire francophone, c'est très difficile parfois de s'identifier comme francophone, francophile ou juste le monde francophone. Pour moi spécifiquement, c'est comme j'ai jamais été assez canadienne pour les Canadiens, j'ai jamais été assez congolaise pour les Congolais, j'ai jamais été assez québécoise pour les Québécois, j'ai jamais assez pour n'importe quelle population, jamais assez francophone pour les francophones et jamais assez anglophone pour les anglophones. Donc j'ai dû vraiment comme construire ma propre identité et définir vraiment c'est quoi la francophonie pour moi précisément. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû un peu prendre et puis créer à ma propre façon de comment est-ce que je vais m'identifier, comment est-ce que moi, je choisis de m'identifier. Donc, c'est sûr que si quelqu'un me demande aujourd'hui, je dis toujours que je suis congolaise et franco-colombienne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est à cause de l'engagement que j'ai eu dans ma francophonie qui m'a vraiment poussée à chercher comment créer ma propre identité.
Merci Blanche. Lindsay, peut-être une question un petit peu plus pointue. Est-ce qu'il y a un moment dans ton engagement ou un élément déclencheur qui fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui, tu es rendue où tu es, donc qu'il y a un élément déclencheur qui a fait en sorte que tu es une personne engagée aujourd'hui?
Absolument, il y a tellement d'éléments déclencheurs en fait. Tout au cours de ma vie, en fait, je suis arrivée ici à 6 ans. Mes parents sont immigrants chinois. Et en étant invitée sur le comité de la langue française, au début, je me demandais, mais qu'est-ce que je peux apporter ici? Et en réfléchissant à la question, j'ai réalisé à quel point le français, ça a toujours fait partie des questionnements identitaires de ma vie, en commençant par voir au niveau de mes parents, leur intégration, à quel point ça a été difficile, mais à quel point ils ont toujours cru que faire partie d'une société, intégrer une société d'accueil, c'est de parler la langue, c'est d'apprendre la culture, c'est de s'intéresser à son histoire. Donc, l'élément déclencheur, je dirais, c'est vraiment de voir mes parents passer à travers ce processus et comprendre tout au long que c'est une chance que j'ai d'apprendre le français, de pouvoir communiquer, de pouvoir me retrouver dans une société où aujourd'hui je suis devant vous et je puisse parler de mes idées. Donc, c'est ça l'élément déclencheur. Mais je vais vous raconter une anecdote. En arrivant à Montréal à 6 ans, j'étais sûre à cet âge-là que j'allais plus avoir à aller à l'école. J'étais super contente parce que je suis arrivée en été. Et finalement, on m'a dit, ben, tu retournes à l'école en classe d'accueil. Et j'ai eu un enseignant incroyable, monsieur Daniel Gosselin, à l'école Bedford, qui, en arrivant, nous a fait à la main, écrit notre nom pour coller sur notre pupitre, une personne à la fois, en nous parlant. Et je ne connaissais pas un mot du français, et c'est à ce moment-là que je me suis sentie vraiment accueillie, intégrée, et c'est de là qu'est parti cet apprentissage qui a été beaucoup facilité. Donc, ce genre d'initiative-là, ce genre de réaction comme société d'accueil, je pense que ça fait partie des déclencheurs qui ont fait qu'aujourd'hui, je veux redonner à ceux les outils pour s'exprimer, pour pouvoir se former cette identité et pouvoir s'intégrer.
Merci. Julie, peut-être un élément déclencheur qui a déclenché ton engagement?
Oui, ça va avoir l'air un peu paradoxal, mais moi, ce qui a déclenché mon engagement, c'est un facteur d'exclusion. Mon double statut d'être immigrante, mais étant arrivée ici seule, je suis aussi arrivée avec un statut d'immigration temporaire. Et pauvre aussi pendant des années, parce que ça, on le dit moins souvent, on sait que les processus d'immigration sont très longs, mais ils sont aussi très coûteux. Et moi, j'ai accumulé plusieurs statuts. Je suis arrivée comme étudiante internationale, n'ayant pas vraiment le droit de travailler à temps plein l'été pour accumuler de l'argent. Ensuite, j'ai accumulé plusieurs permis de travail temporaire. Donc, tout ça fait que j'ai passé 5-6 ans vraiment un peu exclue de la société, dans le sens que je dis pas qu'il faut forcément de l'argent pour s'inclure dans la société, mais c'est un facteur limitant. Par exemple, au niveau de l'emploi, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi quand tu es un travailleur temporaire. Donc, c'était un peu en réaction à tout ça que je me suis dit, ben, comment est-ce que je peux faire si j'ai des limitations, si j'ai des facteurs d'exclusion, comment est-ce que moi, je peux trouver des solutions? Puis c'est là que la francophonie, je disais que c'est un peu ma famille choisie, c'est vraiment là que c'est intervenu. Parce que ce que je pouvais faire quand même, c'est du bénévolat. Puis moi, je me souviens d'être arrivée au Québec, et oui, j'ai appris le français à l'école, à La Réunion, mais personne ne parle dans ma famille. Donc, je suis arrivée au Québec en ayant une super bonne base grammaticale, des beaux mots qui sortent du dictionnaire, mais je n'avais jamais parlé en français. Donc, le fait de faire les études ici en français et de découvrir d'autres immigrants en francisation qui avaient besoin d'aide pour leurs cours de grammaire et tout ça, bien, ça m'a permis de m'intégrer. Puis, de fil en aiguille, c'est là que j'ai découvert que tu peux t'investir dans la société de plein de façons différentes. Oui, il y a le travail qui prend beaucoup de temps, mais il y a le bénévolat, il y a les milieux de gouvernance, il y a les comités étudiants aussi qui sont accessibles à tout le monde. Puis la francophonie, ça a été un peu le liant dans tout ça pour moi. Fait que toujours chercher le fil directeur de la francophonie, parce que je suis aussi une artiste, j'adore la poésie. Fait que aller toujours chercher des opportunités artistiques, tout ça fait que j'ai découvert le beau réseau francophone partout au Canada. Puis c'est ça aussi qui m'a emmenée à vouloir m'engager, c'est de dire, il y a d'autres jeunes en ce moment qui se reconnaissent pas du tout dans certains milieux où il y a des jeunes francophones. Fait comment est-ce que je peux montrer que tu peux avoir un parcours totalement différent, mais quand même contribuer de façon significative et positive à la société? Fait que ça a été un peu en réponse à une espèce de détresse, mais tout est bien qui finit bien quand même.
Oui, évidemment. Puis moi, j'ai un parcours, je dois dire, privilégié, en fait. T'sais, moi, j'ai grandi dans un milieu majoritaire francophone. J'ai été dans une école francophone. J'ai eu accès à une garderie francophone quand j'étais plus jeune. Et encore, j'ai accès à des études postsecondaires en français. Et je le reconnais, c'est un privilège pour moi, mais mon attachement à la francophonie puis m'engager dans ma communauté, vraiment, ça s'est fait par le réseau jeunesse. C'est à ce moment-là que j'ai appris que, tu sais, oui, on peut apprendre le français dans un cadre scolaire entre les quatre murs de l'école, mais l'important, c'est d'être capable de vivre en français. Et c'est ce que le réseau jeunesse m'a un peu permis, et c'est ce que m'engager m'a un peu permis, c'est de vivre cette francophonie-là. Puis je suis très heureux de le faire, puis j'ai la chance de côtoyer des jeunes engagés presque à tous les jours, là, donc je suis très heureux de ça et de cet engagement-là. Et pour le public, je vous invite à commencer à réfléchir à des questions. On va avoir un petit peu de temps, je vais passer à ma prochaine question, mais après ça, ce sera votre tour. Donc, pour les panélistes, ma prochaine question, qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement et ou même professionnellement, de vous engager dans vos communautés? Peut-être?
Je vais commencer. Le fait de s'engager dans sa communauté, dans ses communautés, c'est d'abord pour moi une question identitaire. Moi, j'ai fait mes études en psychologie. Et la question identitaire est fondamentale pour le bien-être pérenne de l'individu, hein, de rester dans l'actualisation de soi, mais également de connexion lorsqu'on a une base solide, lorsqu'on se connaît, lorsqu'on on arrive à mieux contribuer à sa société. Donc, c'est dans ce sens-là que toutes mes initiatives d'engagement est faite, dont mon entreprise, donc à travers l'art, comment on fournit aux gens des outils pour réfléchir, pour pouvoir faire ce travail-là par eux-mêmes et aussi connecter avec les autres. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Rappelle-moi la question.
Oui, donc, c'est qu'est-ce que ça vous apporte personnellement et professionnellement?
Et personnellement, c'est ça. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est de répondre à des questions. Mais souvent, dans ce parcours-là d'engagement, on en ressort avec plus de questions qu'on a de réponses. Mais je pense que ce qui est important, d'abord, c'est de continuer cette discussion. Comme inspirer de la psychologie, comment cette réflexion, cette introspection, cette capacité-là doit être, ce qu'on le transverse à la société, bien, avoir des conversations en continu. Quand je regarde des enjeux sociaux et les discours qu'ils ont, moi, je me dis, au moins, on en parle. Au moins, c'est un début. Donc, c'est vraiment ça qui est important pour moi, l'engagement à ce niveau-là. Puis, professionnellement parlant, écoute, je pense que de toute ma vie, je finirais pas de développer si c'était seulement la francophonie, par exemple, en termes de territoire, en termes de culture, en termes de masse, là, de public, de clients. Donc, pour moi, c'est aussi une ouverture à une panoplie de cultures, en fait, au sein même de la francophonie. Ça, à travers une langue que je maîtrise, qui est le français, qui n'est pas ma langue maternelle, mais qui est la langue dans laquelle je suis la plus confortable. Donc, ça facilite également beaucoup, beaucoup le développement de carrière, parce que juste en se concentrant sur la francophonie, on arrive à éviter plein de travail en double. Et on arrive aussi à pouvoir, de ma part, être plus proche de moi-même, être plus proche de mon identité, de déployer mes idées de façon beaucoup plus cohérente à moi-même.
Julie?
Professionnellement, c'est sûr que c'est des belles opportunités de développement de compétences que j'ai jamais eues ni à l'école ni au travail, en fait, mais qui sont utiles pour mon travail. Il y a plein de choses que j'ai fait dans mes engagements jeunesse que j'aurais probablement jamais eu la chance de faire sur le marché du travail parce que j'ai pas le diplôme qui va avec. Par exemple, la citoyenneté jeunesse, moi, j'ai eu la responsabilité d'encadrer ma direction générale, mais aussi de faire de la gestion de crise au sein de l'organisation. Puis ça, c'est quelque chose qui était très stressant, mais quand tu as une équipe d'autres jeunes qui te supportent, puis qui t'encouragent là-dedans, puis qui te donnent aussi le droit à l'erreur, c'est très motivant. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement transférable aussi, et au niveau personnel, et au niveau professionnel. Avec le type d'opportunités que j'ai eues dans mes engagements jeunesse, que ce soit aussi pour faire des représentations politiques ou des panels, comme on fait aujourd'hui, ça, c'est vraiment bon pour le développement de compétences. Donc, comme tu disais, Lindsay, pour des opportunités de carrière future. Puis au niveau personnel, moi, je te rejoins beaucoup sur la connaissance de soi. Veux pas, c'est très intime. La langue comme sujet, ça vient chercher à nos émotions. Donc, l'idée, en fait, d'écouter les expériences de chacun et chacune. Moi, je dis souvent que chaque personne a un parcours qui mérite d'être écouté, entendu et valorisé. Puis la francophonie, je trouve que c'est un excellent réseau pour ça. Parce qu'on va chercher une multitude de parcours, on va chercher des gens qu'on dit atypiques, mais qui, dans le fond, tout le monde est un peu atypique. Donc, personnellement, ça m'apporte, oui, de la connaissance de soi, mais des meilleures relations aussi avec le monde qui m'entoure, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est pas quelque chose que je pense j'aurais pu avoir ni à l'école, ni directement dans mes milieux de travail.
Blanche, peut-être, est-ce qu'il y a des avantages ou des défis à être engagée dans la communauté?
Par où commencer? Oui. Avantage, le sentiment d'appartenance. Je crois que c'est là où j'ai pu définir le mot francophone encore une fois pour moi. Petite anecdote, donc mon premier événement jeunesse, j'ai rencontré un accompagnateur noir. Et puis, c'est la première fois, bon, en CB déjà, il n'y a pas beaucoup, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires, et puis il n'y avait pas beaucoup de personnes noires francophones. Donc, la première fois, j'arrive à un événement et c'est un accompagnateur noir, c'était comme, oh my gosh, il y a des gens comme moi dans cette communauté, malgré que c'était la seule personne. Mais ça m'a rapproché, ça m'a vraiment apporté juste voir une personne, ça m'a apporté tellement un sens et un sentiment d'appartenance, et un peu comme on dit en psychologie aussi, le sens d'appartenance pour des personnes, c'est crucial, c'est essentiel. Et puis de juste voir cette personne, et puis je me suis dit comme je veux m'impliquer pour être dans ce domaine-là. Et puis quelques années plus tard, maintenant je suis la vieille. dans le réseau jeunesse.
Sur un panel jeunesse, par contre.
En plus, il faut dire ça aux plus jeunes. Mais il y a des plus jeunes qui me voient, des 14, 15 ans, qui me voient et puis disent, oh, c'est tellement bien de voir quelqu'un comme toi dans la communauté. Et qui parle français, qui s'engage, etc. Et puis ça leur inspire. Et puis je crois que pour moi, ce sentiment d'appartenance-là est tellement important. Je le vois avec mes sœurs, toutes mes sœurs, j'ai 3 sœurs, qui sont super impliquées dans le monde de la francophonie, qui sont engagées, qui veulent faire plus. C'est ça le but. C'est ça pour moi que les jeunes se sentent vraiment un sentiment d'appartenance. Mais le défi, c'est beaucoup, surtout en milieu minoritaire, je dirais que c'est beaucoup l'insécurité linguistique. Et ça vient souvent au fait qu'à l'école, c'est sûr qu'on nous dit toujours « parlez en français, parlez en français, parlez en français ». Et c'est pas une mauvaise chose, mais je crois que dans les espaces comme les réseaux jeunesse, on ne force pas les jeunes à parler français, mais ils parlent français quand même. Et puis, ça vient avec le fait que quand tu es en milieu minoritaire, ton français n'est pas toujours pareil. Et ça revient un peu au fait que j'ai dit, comme je suis pas trop assez congolaise, pas assez canadienne, et puis c'est parce que de cette insécurité linguistique que ça fait que j'ai un peu envie de comme, ok, peut-être je vais me retirer de la francophonie parce que je parle pas aussi bien français que les autres. Ou je lance des anglicismes et puis on me dit il faut pas dire des anglicismes. Malgré que c'est ma réalité que je parle comme ça et puis sometimes je dis des mots en anglais comme c'est ça ma réalité parce que j'ai grandi en milieu minoritaire. Donc je crois que ça c'est un défi, mais le sentiment d'appartenance ça fait que je reste engagée malgré les défis qui se présentent.
Et Blanche, ça porte un très bon point quand on parle de sécurité linguistique. On le sait, le fait de corriger justement quelqu'un qui parle français, qui fait le choix de parler français, le fait de corriger cette personne-là a justement l'effet contraire souhaité. En fait, il y a plus de jeunes, de gens même qui vont changer à l'anglais justement par peur de se faire corriger en parlant français. Donc, c'est très important de permettre aux jeunes de vivre leur francophonie à leur façon, dans leur propre accent. Aditya, revenir peut-être à la question, y a-t-il des avantages, des défis que tu vois à l'engagement dans ta communauté?
Ouais, je pense que les jeunes n'ont plus vraiment le choix, mais de s'engager dans les communautés. Au Campus Saint-Jean, on m'avait forcé de lire un livre dans un cours de littérature que, à l'époque, j'étais comme, oh my God, pourquoi on lit ça? Mais le thèse du livre, c'est qu'on n'adopte pas une identité tant que c'est menacé. Puis, j'ai pas touché à mon moment déclencheur tantôt, mais c'était tout ce qui se passait avec la crise du campus Saint-Jean, quand on disait que ça se peut que les portes du campus seront fermées, ou il y avait des programmes qui seront coupés, ou qu'il n'y aura pas des cours, puis on va aller devoir étudier en anglais. C'est à ce moment-là que la communauté francophone s'est mobilisée. On était à l'écoute des jeunes, puis la communauté a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. C'est votre université, vous êtes les étudiants là-bas. Puis c'est à ce moment-là qu'il y avait des jeunes de l'immersion française comme moi, des jeunes racisés, des jeunes immigrants, des jeunes qu'on voit pas toujours dans le spotlight de la francophonie canadienne, venir avec des propositions de façon qu'on peut faire de la campagne, puis la CFA, la communauté a été comme écoutait ce qu'on avait à dire, puis c'est de là qu'est venue la campagne Sauvons Saint-Jean. C'était une campagne qui est venue de la jeunesse. Puis je pense les défis sont associés à ça. Comme je t'entends quand tu dis que je suis pas assez anglophone pour les anglophones, pas assez francophone pour les francophones. il y a toujours cette bataille-là de se légitimer dans la communauté, puis c'est épuisant. C'est constamment épuisant quand on doit répondre à des questions. D'où viens-tu vraiment? Tu viens pas de Saint-Boniface, toi, le gars indien qui parle français avec un accent de même, comme d'où viens-tu vraiment? Fait que, tu sais, comme de devoir changer mon accent dans des espaces québécois pour ne pas être le sore thumb ou whatever, the elephant in the room. C'est comme, c'est des choses comme ça où on se sent constamment le devoir de se légitimer, où il y a des attentes qu'on fait partie de la norme. Ça, c'est un grand défi que je vois. Puis aussi, un autre défi que je vois, c'est comme se faire entendre. Je pense que quand on fait pas partie d'un réseau, quand on fait pas partie d'un organisme en tant que jeune, mais on fait du beau travail dans nos communautés, on n'est pas souvent entendu ou vu pour nos travaux, pour nos contributions dans nos communautés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans nos communautés francophones, sont juste pas associés à un organisme comme tel. Puis, tu sais, c'est l'autre chose, que les organismes ne réservent pas le monopole de la jeunesse francophone non plus. La francophonie, la jeunesse francophone n'est pas une monolithe, puis ne peut pas toujours être encadrée par un organisme ou des... Tu sais, comme des choses comme ça. Donc, on devrait aller à l'écoute des jeunes sur le terrain, un peu oser, puis essayer de voir à l'extérieur du réseau de toujours les mêmes, comme qu'on dit. Puis, je suis vraiment content qu'aujourd'hui, avec Mobilisation Franco, on a un super beau panel qui sort de ça, puis qui met au profit vraiment des jeunes, des profils qui font du travail dans leur communauté, qui méritent d'être comme applaudis.
Quelque chose à ajouter, les panélistes?
Moi, je te rejoins vraiment là-dessus, Aditya. Le gros défi, en fait, de l'engagement, c'est de concilier nos différentes identités. Veux pas, les différents engagements qui nous sont proposés sont vraiment très normatifs. Alors, ça peut être difficile quand on n'est pas dans ces normes-là de s'intégrer. Puis les normes, ça peut être autant les codes sociaux, tu as mentionné l'accent, mais il y a la façon de s'habiller aussi, oui. Des fois. Ça peut être aussi nos identités de genre, nos identités sexuelles qui sont pas toujours compatibles avec le type d'engagement ou d'événement qu'on nous propose. Il y a toutes les questions liées à la neurodivergence aussi. Moi, je sais que dans les événements jeunesse, souvent, ça implique des grands rassemblements. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas le bruit, qui n'aime pas les foules, qui n'aime pas la lumière, ben déjà, c'est plus difficile de s'engager. Ouais. Souvent aussi, quand on parle de leadership, on dirait, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, on s'attend à ce que les jeunes se mettent en avant beaucoup. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, être en avant. Il y a des gens qui sont plus à l'aise quand ils sont en arrière-scène. Et cet engagement-là est tout aussi important. Fait qu'on dirait que c'est difficile de, encore une fois, bien se connaître, oui. Bien connaître nos limites, puis la façon dont on est plus à l'aise de s'engager, puis ensuite de trouver l'espace pour être soi-même dans des milieux où on peut s'engager. Puis je pense que là, c'est les milieux d'accueil qui ont vraiment un rôle à jouer, de changer peut-être le type d'événement, le type d'engagement qu'on propose, d'avoir plus de diversité aussi, pour aller atteindre la diversité des jeunes.
Et si je peux même ajouter, surtout au point de la communauté, c'est que souvent, on pense que l'identité ou la francophonie, c'est surtout à l'école, alors que c'est plus dans le communautaire. Mmh. C'est là où on se retrouve plus. Et puis, c'est un travail collectif qu'on doit faire en tant que communauté et organisme communautaire de vraiment montrer que la francophonie, c'est pas juste une chose, c'est pas juste une catégorie de personnes, mais que ça peut représenter plusieurs personnes. Ça peut parler d'intersectionnalité. On peut parler d'être femme, noire, quoi que ce soit. On peut vraiment s'identifier que quand je regarde la communauté francophone, je peux me retrouver à quelque part. Mm-hmm. C'est pas singulier, c'est pluriel, toujours.
Puis c'était effectivement le but du projet que j'ai lancé un peu avec Janine, c'est de parler de ces minorités au sein de la minorité francophone, de parler des francophones oubliés dans nos espaces qu'on voit pas, puis on met pas le spotlight dessus. Fait que je pense que on voit que les organismes comme aujourd'hui, on met la lumière sur ça, puis on en parle. Fait que c'est encourageant.
Et si je peux rajouter à ça, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est une question de comment est-ce que l'engagement peut faire en sorte qu'on on reste dans cet esprit de rassembler au lieu de diviser. Sur tous les sujets sociaux, on sait que les gens réagissent mieux quand ils se sentent inclus, quand ils se sentent pouvoir s'identifier à un élément au moins d'une culture, d'une langue, et ainsi de suite. Donc, c'est toute cette question-là de comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on reconnaisse les différences et que ces différences nous rassemblent au lieu de nous diviser, c'est vraiment le nerf de la guerre, je dirais.
Merci. Maintenant, je me tournerai peut-être vers la salle, voir s'il y a des questions. Donc, je vous invite à vous avancer deux micros dans la salle. Je vous invite à rester bref aussi sur vos questions, de vous tenir à l'essentiel de votre question pour permettre à nos panélistes d'en répondre le plus possible.
J'aurais aimé vous enregistrer. Je suis Renée Ouimet du mouvement Santé mentale Québec.
On m'a dit que c'est enregistré, oui.
J'espère pouvoir... faire connaître tout ce que vous avez dit. Vous êtes magnifique, vous dites des choses extraordinaires. Et il y a une chose qui me questionne, c'est je sais que c'est difficile d'être une minorité, quel que soit le type de minorité, mais en même temps, ce que vous dites, c'est ça qui permet de se rassembler et de créer un sentiment d'appartenance. Puis on sait qu'on est d'une société où il y a beaucoup de sentiments de solitude. Mais vous autres, avec tout le type de minorité que vous pouvez avoir, vous avez créé un sentiment d'appartenance fort. Fait que j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de ça.
Wow, grosse question. je pense que le sentiment d'appartenance, au moins pour moi, ça, j'ai dû le créer. Ça n'a pas nécessairement été là pour moi. Ni présente. Donc, le fait d'être minorité dans une minorité, et parfois on le ressent, c'est que c'est une bataille. On doit combattre, on doit pousser pour certaines choses. Je vais parler un peu plus dans le sens culturel, religieux peut-être, comme par exemple dans des événements, on a eu un jeune qui est venu dire comme « Hey, j'ai besoin d'une salle de prière parce que pendant l'événement, comme je dois aller prier, puis c'est comme « Ok ». Maintenant, c'est notre rôle en tant que communauté de comment est-ce qu'on peut créer cet espace pour eux. Mais c'était aux jeunes de venir nous demander. C'était pas quelque chose qui était déjà établi. Et puis, c'est un peu ça, c'est que parfois, en tant que minorité de la minorité, on doit un peu comme, on doit toujours poser la question, on doit toujours pousser, on doit toujours, comme Aditya a dit, comme, à un niveau, ça fatigue. Mais, je crois que pour moi, personnellement, c'est que malgré le fait que ça fatigue, c'est quelque chose que je veux voir pour mes sœurs. Je veux voir pour la prochaine génération. Je veux voir pour d'autres personnes qui peuvent se retrouver et avoir ce sentiment d'appartenance-là. Donc, le sentiment d'appartenance, malheureusement, dans un sens, c'est qu'on doit le créer personnellement. Mais après, c'est est-ce que la communauté peut aussi nous aider à encore renforcer ce sentiment? Donc oui, c'est un début de « Ok, moi, je dois faire le travail, mais est-ce que la communauté peut me soutenir dans ce travail aussi? »
Il y a d'autres gens qui veulent ajouter?
Mais je pense que la chance qu'on a aussi d'être impliqué dans le réseau francophone, c'est que c'est très grand. Puis là, évidemment, on parle de francophonie canadienne, mais on pourrait aller jusqu'à la francophonie internationale. Moi, je sens que c'est ça qui m'a aidée, c'est que si j'ai besoin de trouver ma minorité de minorité, elle est peut-être pas dans ma ville, elle est peut-être pas dans ma province, mais elle existe quelque part au Canada ou à l'international. Fait que l'idée aussi, c'est des événements comme on fait aujourd'hui de rapprochement des communautés sont super importants pour l'inclusion des jeunes. Parce que si on ne trouve pas l'opportunité dans notre village où il y a moins d'engagement, où il y a moins d'implication, on va pouvoir la trouver ailleurs.
Je pense que ta question se rapporte en fait à une question d'intégration en continu. En fait, lorsqu'on est minoritaire et tout, c'est un cheminement de vie en intégration. Même aujourd'hui, chaque jour, je rencontre encore des différences de perspectives, des idées qui me font réfléchir sur cette intégration-là. Et au début, en arrivant ici au Canada, l'idée c'était un jour je vais être comme les Québécois, comme un jour je vais être québécoise, un jour je vais me sentir et au fil des années, je me suis rendu compte qu'en fait cette diversité-là de parcours fait partie de cette identité-là globale et j'ai mon mot à dire vis-à-vis de ça. Et c'est des questionnements qui vont
j'ai accepté en fait que ce sont des questionnements qui vont arriver tout au long de ma vie en fait, qui vont rester. Et c'est ça la beauté de la chose aussi, c'est de les découvrir au fur et à mesure. Et je pense que si on laisse la place aux jeunes, à toute minorité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir connecter, c'est là où on va pouvoir se permettre en fait une nouvelle définition de ce qui est l'identité là, commune.
Je pense que j'ai rien à ajouter, tout le monde l'a bien dit, mais c'est ça.
Merci. Peut-être à gauche ici.
Une question, vous étiez en classe à l'école francophone, puis jeune adulte. Quelle était la place justement de l'anglais lorsque vous sortiez de votre classe de français avec vos camarades? Aujourd'hui, en tant que jeune adulte, avec vos amis, quelle place, comment faites-vous pour continuer à vivre une appartenance et une identité francophone dans vos conversations régulières? Comment faites-vous pour allier entre l'omniprésence d'un Netflix où presque tout se passe en anglais, entre le cinéma, la musique, etc.? Comment vous faites concrètement pour pouvoir propager le fait que vous tenez à rester francophone? Comment on allie tout ça à votre regard?
Super belle question. J'ai étudié en école francophone, donc je peux en parler. Mais disons que dans la salle de classe, c'est en français. Mm-hmm. Dans les couloirs, c'est en anglais. C'était un peu ça la réalité de notre vie. C'est ça, tu parles en français en classe, puis dès que tu sors. Pour moi, c'était un peu différent parce que mes parents renforçaient le fait qu'à la maison aussi, c'est en français. Français ou Lingala, mais on ne parlait pas Lingala, donc c'est le français. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment ça dans la maison. Donc, ça, je crois que c'est ça. Mais tout autour de ça, donc mes parents avaient une règle qu'avec eux, on parle français, mais entre nous comme sœurs, on peut parler en anglais. Mm-hmm. Donc, avec mes sœurs, je parlais en anglais, la musique en anglais, la télé en anglais, mm-hmm. tout est en anglais. Mais le fait que mes parents, en fait, nous, on parle en français, c'est un peu ça que j'ai un peu gardé mon lien et avec l'école. Donc, ça, c'est plus à l'élémentaire, au primaire, bien sûr. Tu as moins accès à, par exemple, les activités jeunesse mm-hmm. qui sont de 14 à 25 ans. Mais pendant cette période-là, c'était surtout mes parents qui l'ont encadré, mais aussi l'école. Et puis, dès que j'ai eu la possibilité d'avoir l'accès ou... Même pas juste l'accès, mais juste la connaissance du réseau jeunesse, c'est un peu là que j'ai dit, oh, mais je peux vivre en français. Comme c'est pas quelque chose qui est juste à l'école, c'est pas juste mes devoirs qui doivent être en français, mais je peux réellement vivre en français. Et puis c'est à travers juste rencontrer d'autres jeunes francophones à l'extérieur de l'école qui a encore renforcé ce point-là, parce que on est dans un milieu anglophone, on va au mall, et puis on a besoin de gossip, et puis on parle en français. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, c'est juste de vivre différentes expériences en français le plus possible.
Mais aujourd'hui, concrètement, en tant qu'adulte?
Aujourd'hui, concrètement, en tant qu'adulte, c'est sûr que maintenant, j'ai des amis un peu partout au Canada. donc, je parle français. Je n'ai jamais parlé en anglais avec Simon, je ne pense pas. donc, je crois que ça dépend des milieux, mais je crois que j'ai des milieux francophones, j'ai des milieux anglophones, j'ai des milieux bilingues aussi. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, j'écoute maintenant la musique en français parce que je veux et non parce que ça m'a été comme forcé dessus. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est un peu ça, mais si les autres voulaient ajouter.
Je pense...
Netflix, par exemple.
Moi, j'ai pas un abonnement Netflix. J'écoute quasiment pas de la télévision. Moi, j'ai passé à travers l'école d'immersion française. Puis la chose qui a fait la différence entre moi puis mes collègues qui sont allés vers l'anglais, puis moi qui est resté dans le français, c'est le fait que j'ai fait le choix. Puis c'est le fait que j'avais des enseignants qui avaient inculqué en moi une fierté francophone. Puis j'ai resté dans cette voie-là parce que j'ai vu la valeur dès comme la 12e année. Je peux aller étudier en français au campus Saint-Jean, je peux faire mon bac, je peux être dans cet espace tout en français. Je pense qu'une autre chose qui est importante, c'est que le fait que les jeunes parlent anglais quand ils sont ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est moins francophone. Mm-hmm. Moi, à la maison, le français et l'anglais, c'est interdit. On parle que le tamoul. Puis si je parle le français ou l'anglais avec mon frère ou avec ma mère, mes parents ne parlent pas le français, there will be a shoe flying at me. mais cela étant dit, le fait que je parle le tamoul à la maison ne veut pas dire que je suis moins franco-albertain. À l'extérieur, avec mes amis franco-albertains, je parle en français, je parle des fois en anglais. Puis je pense que c'est ce mélange-là qui fait de nous... c'est ça la beauté de la francophonie minoritaire aussi. Je pense que on ne devient pas moins francophone à cause du fait qu'on s'adapte dépendamment de où on est.
Et même pour ajouter comme... Ouais. Et même pour ajouter, je crois qu'on compte pas aussi que surtout en milieu minoritaire, c'est souvent le français, c'est souvent notre deuxième, troisième langue même.
Oui.
Mais ça, comme tu as dit, ça ne nous rend pas moins francophones. Mm-hmm. On peut toujours être francophone et parler deux, trois, quatre, cinq langues même. Mm-hmm. Et puis s'identifier en tant que toutes ces choses-là, parce que ça rend la diversité francophone encore meilleure. Donc, ouais, c'est ça.
Je ne sais pas si tu as des commentaires à ajouter, peut-être rapidement.
Oui. Ben, moi, ça a été un petit choc culturel quand je suis arrivée, en fait, au Canada, de voir la tension linguistique qui existait. Quand j'ai grandi à l'île de la Réunion, j'étais dans un petit village, puis le français était aussi une langue minoritaire, parce que les gens parlent créole. Dans ma famille, personne ne parlait français. Mais on n'a pas cette tension linguistique-là, comme tu dis, parce qu'il y a plusieurs autres langues. Et qu'il n'y a pas de bataille. Il y a vraiment, on accepte toutes les langues, puis on les valorise toutes. Même si c'est pas du tout le même contexte, évidemment, socio-historique. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt à valoriser, en fait, le multilinguisme, parce que c'est ça qui fait que les jeunes vont aussi s'intéresser à la francophonie.
Une question, si je peux finir, juste sur... je pense que ma façon de consommer la culture, c'est au travers des sujets, des thématiques. Donc, quand il y a du contenu, que ce soit en français, que ce soit dans d'autres langues, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc, si on crée, je pense, des contenus qui vont vraiment vers les gens, qui parlent aux gens, que le français va de soi dans cette consommation-là. Moi, j'ai grandi en écoutant la radio avec mon père dans l'auto à chaque matin, et je le fais toujours aujourd'hui. Au lieu d'écouter une liste de lecture sur Spotify, par exemple, je vais mettre la radio. Donc, ça fait partie de mes sources de découverte culturelle. Et si on veut promouvoir plus le contenu en français, bien, il faut en créer du contenu qui parle aux jeunes, qui parle aux gens, qui parle à toutes ces questions qui viennent nous chercher, en fait.
À droite, peut-être?
Oui, bonjour. Merci pour vos propos si inspirants. Vous nous avez démontré de façon très éloquente que l'inclusion, la diversité, la pluralité sont vraiment les forces de la francophonie ou des francophonies. Ma question va être assez simple. On est réunis ici dans le cadre de mobilisation franco pour favoriser un rapprochement entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. J'ai très rapidement réalisé que malgré votre jeune âge, vous êtes des sages. Alors, je pose la question aux sages, ça peut être une réponse très, très courte. Si on vous demandait quel est l'élément ou l'initiative à privilégier pour favoriser ce rapprochement, je dirais ce rattrapage à faire pour le Québec et les communautés francophones, quelle serait votre réponse?
Moi, je vais y aller très brièvement, c'est la jeunesse. Tournez-vous vers les organismes jeunesse et vers le réseau jeunesse parce que nous, on a cette attitude de mobilité, de rapprochement. On est déjà pour ça de par nos parcours, pas forcément international ou d'immigration, mais à l'intérieur du pays, les jeunes bougent beaucoup aussi pour étudier. Fait qu'on a déjà cette attitude positive envers les rapprochements. Fait que tournez-vous vers le réseau jeunesse qui est prêt pour ça puis qui peut favoriser des opportunités pour les rapprochements des francophonies.
Je pense aussi qu'on ne devrait pas agir comme des solitudes, comme le Québec et les francophonies canadiennes. Je trouve que on se met une barrière, des frontières entre les deux, quand on pourrait inviter du monde du Québec sur nos CA ou des gens de la francophonie sur les CA au Québec, puis avoir un échange d'informations, un échange de bonnes pratiques, des choses qui ont fonctionné ailleurs. Puis ça s'ajoute à la diversité, vous l'avez mentionné vous-même, on est divers, on est pluriel, on est dynamique comme communauté, puis communauté avec un S, fait que pourquoi pas l'embrasser?
Autre chose à ajouter? Évidemment, on l'a mentionné dans la vidéo, mais les Jeux de la francophonie canadienne qui s'en viennent à Laval en juillet 2025, donc c'est un événement qui s'en vient, qui justement assure ce rapprochement-là entre la francophonie canadienne et les francophones du Québec. Donc je pense quand même des événements comme ça, des événements marquants pour la jeunesse, je pense que ça contribue réellement là au rapprochement de toute la francophonie canadienne.
Merci. Et Aditya, je voudrais te rassurer, au sein du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, il y a des représentants de l'Ouest canadien, de l'Ontario, de l'Acadie et des Amériques. Donc, effectivement, c'est important de faire front commun. Et on a, nous, dès le début, insisté pour que le centre soit représentatif de toutes ces communautés francophones. Merci pour vos réponses.
Merci à vous. On pourrait peut-être prendre une dernière question du public à gauche.
Merci beaucoup pour vos interventions. Ma question est, l'assimilation, c'est un phénomène qui fait que des personnes qui parlaient français ne parlent plus français, ne vivent plus en français, que ce soit des gens qui, c'était leur langue maternelle ou une langue apprise. Est-ce que les personnes qui sont dans ce phénomène-là, est-ce que c'est des francos oubliés? Est-ce qu'on a un devoir envers... Quel est notre devoir envers ces gens-là? T'sais, je pense notamment à toutes les personnes qui ont fait partie de ce réseau jeunesse-là pendant 50 ans, puis qui, à cause des pressions systémiques de l'assignation, en sont sorties. C'est quoi notre devoir envers ces gens-là?
Une grande question.
Ça se voit que ça vient de quelqu'un qui faisait partie du réseau jeunesse, de ce que j'ai entendu. Wow, c'est une très, très grosse question.
C'est pour ça que je demande aux sages aussi.
Je peux dire, bon, en tant que jeune qui vient aussi d'un pays colonisé, c'est sûr que c'est un, on dit souvent en CB, c'est un sujet touchy. Parce que c'est très difficile dans un sens de s'identifier comme francophone alors que on vient d'un pays qui a été colonisé. Donc je viens du Congo, malheureusement on l'appelle Congo France, donc le Congo français, pas le Congo belge, qui a été bien sûr colonisé par les Français. Ça fait que les Congolais ont cette tension avec la langue française, qu'on est vraiment divisé déjà dans notre pays, de le fait qu'il y a des personnes qui croient qu'on ne devrait pas apprendre le français parce que c'est la langue des colonisateurs, puis il y en a d'autres qui disent que non, il faut apprendre le français parce que c'est la langue des colonisateurs et on doit le rétablir et tout ça. Et puis en venant ici, c'est la même chose, cette division n'a pas quitté. Et donc c'est un peu comme, comment est-ce qu'on navigue cette... comme on peut dire, assimilation, c'est vraiment de laisser un peu le choix aux jeunes, à ces personnes-là de choisir. Parce que, encore une fois, ça vient intergénérationnel, ça vient de trauma, ça vient de plusieurs... C'est historique. Mm-hmm. Et puis, on ne peut pas forcer ou comme dire aux gens comme « Non, mais identifiez-vous comme francophone parce que blablabla. » Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est que ça doit être un choix. Et je crois que le fait que, par exemple, quand des parents... Je travaille dans les écoles maintenant. Et puis, je vois souvent qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas être là, mais qui ont été mis dans l'école francophone à cause de leurs parents, qui, après avoir vécu le français... comprennent après. Mais ça, c'était leur choix. Mm-hmm. Mais je connais aussi plusieurs jeunes qui ont quitté l'école francophone et qui ont décidé « je ne veux plus rien avoir avec le français ». Et ça, c'est correct. C'est leur décision à la fin de la journée. Oui, on veut prévoir et puis on veut garder le français. C'est important, absolument. Mais à la fin de la journée, surtout quand on parle de trauma intergénérationnel, on doit aussi donner le choix. Et on peut... oui, continuer de parler puis dire comment c'est important de garder le français et pourquoi est-ce qu'on parle français, surtout dans un pays qui est bilingue. Mais encore une fois, ça doit être un choix. Et quand c'est un choix, ça apporte ce sentiment d'appartenance, ça amène cette prise de conscience, ça apporte beaucoup plus. Et tu vas voir des jeunes qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus motivés, beaucoup plus passionnés quand c'est leur choix. Mm-hmm. Et quand ce n'est plus leur choix, c'est là qu'on voit malheureusement des tendances plus négatives. Donc, c'est une une réponse un peu vague, mais c'est pour dire que c'est un choix à la fin de la journée.
Je pense qu'effectivement, ça commencerait par comprendre le pourquoi est-ce que ces personnes ont fait ces choix-là au final. C'est commencer par comprendre toutes ces différentes expériences que les gens ont vécues, en ressortir les éléments, puis après ça, on peut parler solutions.
Je vois le temps qui file, peut-être en guise de conclusion. Que souhaitez-vous voir pour mieux inclure la jeunesse dans toutes les sphères de notre société? Rapidement, là.
Moi, je dirais, j'aimerais voir un meilleur partage des connaissances puis des bonnes pratiques. Il y a souvent des super bonnes intentions d'inclure les jeunes dans les milieux décisionnels. Malheureusement, les intentions, c'est pas suffisant. Il faut aussi aller chercher concrètement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Fait que moi, j'aimerais ça voir plus de formations dédiées, non pas aux jeunes, parce que les jeunes sont prêts. Les jeunes veulent y aller, mais dédiées au milieu d'accueil. Fait que si dans votre organisme, dans votre comité, vous avez envie d'accueillir des jeunes, partez du principe que vous savez pas tous les besoins qu'on a, donc allez chercher l'expertise, par exemple, auprès des organismes jeunesse. On a vu, il y en a un dans chaque province et territoire. Fait que faites appel à ces gens-là pour vous guider dans comment inclure des jeunes. Je dis souvent, pour inclure des gens, faut pas juste ouvrir la porte puis attendre que les gens rentrent. Il faut les inviter. Il faut voir c'est quoi leurs besoins. Il faut voir c'est quoi la façon que ça fonctionne mieux pour eux et elles. Alors, vraiment, aller chercher de l'expertise pour mieux inclure les jeunes.
Lindsay? Moi, je suis vraiment d'accord sur ça. C'est une question de... En fait, le plus grand problématique dans cette intégration-là, au niveau des jeunes, c'est vraiment ce sentiment d'imposteur. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce sentiment-là soit renversé pour faire place à cette perception que le manque de préconçus, c'est une force. C'est une force pour pouvoir revoir les choses différemment, pour pouvoir amener une nouvelle perspective et comment on peut faire une place de sorte à ce que les jeunes se sentent vraiment partie intégrante de la solution maintenant.
Moi, je dirais, on doit arrêter de dire que les jeunes sont les leaders de demain. On est les leaders d'aujourd'hui. On est prêts, on est là, on est présents, on est engagés, on est passionnés, on est dynamiques, on veut être à la table. Et puis de constamment dire que non, c'est demain les jeunes, c'est demain. Finalement, demain, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on a des organismes qui sont par et pour les jeunes, parce qu'on croit réellement que les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. Ils prennent le relève, ils font du beau travail en plus, 50 ans, c'est pas rien. Donc c'est vraiment, impliquez-nous dès maintenant. N'attendez pas demain, parce que finalement demain, ça va prendre du temps. On est les leaders d'aujourd'hui, on est prêts, et c'est ça. On veut vraiment s'impliquer.
Merci. Alicia? J'espère que vous allez partir prête à oser. Oser à aller au-delà de ce qui est facile, d'aller vraiment chercher des jeunes qui font du beau travail sur le terrain. Je sais que c'est des fois facile de se limiter aux jeunes qui sont toujours sollicités, mais il y a plusieurs jeunes qui font du beau travail sur le terrain, puis devraient avoir leur contribution vue. J'en connais tellement en Alberta, des jeunes de l'immersion française, racisés, mais ces jeunes-là s'impliquent pas dans des organismes formels parce qu'ils se sentent pas comme c'est leur place ou comme il n'y a pas une place pour eux. Fait qu'osez aller au-delà de ça, puis mettez-vous au défi.
Merci. Une bonne main d'applaudissement. Julie, Lindsay, Blanche, Aditya, merci beaucoup pour ces sages paroles. Merci au Centre de la Francophonie des Amériques, à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, de la place pour faire ce panel jeunesse ici. Merci au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal. Je vous invite à discuter avec nous pendant l'heure du lunch. Donc, on s'en va au lunch. Donc, je veux pas parler pour mes collègues, mais on est prêt, je pense, à répondre à d'autres questions. Je sais qu'il y en avait d'autres dans la salle, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, Sylvain, à toi la parole.
Oui, merci. Puis merci tout le monde. Effectivement, il y a plein d'idées fortes dont on va discuter sans doute pendant le lunch. J'ai quelques consignes avant que vous leviez pour être sûr qu'on se comprenne sur peut-être même les 3 heures à venir. Hein. Premièrement, Dans deux minutes, on va tous se diriger vers les salles où sont les boîtes à lunch, dans le fond. On peut se diriger ici, c'est au niveau M, donc tout de suite ici, il y en a. Chose importante, on va manger dans les salles M425 et M450. Les gens qui ont indiqué qu'ils avaient des allergies, allez à M425, il y a des boîtes avec votre nom dessus. Très important pour ceux qui ont des allergies, qui l'ont indiqué à l'avance. Autre chose... information sur le programme de l'après-midi. Donc, à 13h15, hein, vous vous retrouvez tous à un atelier de discussion. Et ensuite, il y aura des rencontres de vis-à-vis. On se retrouve tous ici à 15h45 pour, dans le fond, la plénière et la fin de la journée. Petite consigne dans les ateliers de discussion que je vais vous donner. On a décidé de ne pas choisir dans chaque atelier un porte-parole qui viendrait nous raconter ce qui s'est passé. Mais... ça donne une responsabilité à tout le monde parce que quand on va se réunir pour la plénière, je vais vous demander à tout le monde, qu'est-ce que vous avez retenu dans les ateliers comme idées fortes qui sont sorties? Et là, à ce moment-là, je vous invite à venir abondamment nous donner des trucs pour participer à la plénière pour être sûr que tout le monde ensemble, on ait un peu une idée de tout ce qui s'est dit dans les 8 ateliers qui vont se dérouler cet après-midi. Alors, c'est à peu près les consignes que j'avais. Je pense qu'à part ça, tout le monde est clair. Merci encore beaucoup à nos invités. Merci. Bon. On peut y aller. C'est bon. Donc, on peut se diriger ici.